France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire à peine croyable. Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 1er décembre 1944, les tirailleurs africains de retour des combats réclament leur solde à l'armée française. Réclamer son dû, rien de plus normal, d'autant qu'il s'agit du salaire de la peur, de l'enfer des combats et de la captivité. Mais l'état-major ne répond pas à leur demande. Il traîne. Les tirailleurs africains décident donc de passer à la vitesse supérieure et manifestent collectivement leur colère, ce que leur supérieur qualifie immédiatement de mutinerie. Le mot est lâché, lourd de conséquences, qui dit mutinerie dit répression féroce. Une logique qui mène jusqu'à l'irréparable, le massacre de dizaines, voire de centaines de tirailleurs africains, soldats français tués par d'autres soldats français. Une histoire d'une immoralité saisissante, bien sûr, qui a laissé des traces profondes dans la mémoire collective africaine et française, si tant est qu'elle veut bien se retourner sur les crimes de la période coloniale, ce que le président Hollande, pendant son mandat, a consenti à faire franchement et sans détour à Tiaroy, aux côtés du président sénégalais. Notre invitée aujourd'hui, Armelle Mabon, historienne, maître de conférences en histoire à l'Université de Bretagne-Sud, aujourd'hui retraitée, également membre du collectif Secret Défense. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Odile Conseil, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bizio, chargée de programme Rebecca Donnante.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
En cette fin novembre 1944, alors que la France est presque entièrement libérée, des milliers de tirailleurs africains sont rapatriés et rassemblés au camp de transit de Tiaroy, à une quinzaine de kilomètres de Dakar. Ils doivent y être officiellement démobilisés et recevoir leur arriéré de solde, ainsi que leur prime de démobilisation, avant de regagner leurs foyers respectifs. Un quart de ce que l'armée leur doit a été versé à l'embarquement, les trois quarts restants doivent être réglés sur le sol africain. Ceux qui débarquent à Dakar en cette fin 1944 étaient prisonniers depuis la cinglante défaite de la France face à la Wehrmacht au printemps 1940. Mais à l'inverse des soldats français, envoyés dans des stalags en Allemagne, les tirailleurs sont internés dans des camps installés en zone française occupée, des Franzstalags. Le Reich ne voulait pas sur son sol des Noirs qui auraient pu corrompre la pureté du sang arien, pensez donc. Ces hommes embarquent à Morlaix le 8 novembre sur le Circassia, un navire britannique. Un arrêt de 24 heures est prévu à Casablanca. Et les voilà donc, en ce 21 novembre 1944, à Tiaroy, où ils s'installent dans ce camp de transit. Ils sont alors accueillis par ces mots d'un gradé, comme dans le film d'Ousmane Sambem, Camp de Tiaroy, réalisé en 1988.
Brave tirailleur! Vous faites honneur à toute la coloniale. Nous sommes fiers de vous. Vous vous êtes montré digne de la renommée de vos pères en 14-18. C'est grâce à votre courage et à votre dévouement à la cause de la mère patrie que notre cher pays, trahi, meurtri, ensanglanté, renaît de ses cendres. C'est grâce au sacrifice de tous ces enfants, blancs ou noirs, que la France reste debout.
Les tirailleurs, qu'on appelle souvent sénégalais car le premier bataillon a été créé à Dakar en 1857, viennent aussi du Niger, de Côte d'Ivoire, du Soudan français, qui deviendra le Mali, de Guinée, de République centrafricaine ou de Haute-Volta, le futur Burkina Faso. Ils sont 200 000 environ qui participent à la Seconde Guerre mondiale sous l'uniforme français. Lors de la Première Guerre, ils ont déjà payé un lourd tribut. Plusieurs dizaines de millions péris au combat, mais aussi de maladies pulmonaires ou de la grippe espagnole. Et en 1939, la France a de nouveau besoin d'eux. Dans ce discours, Georges Mandel, ministre des colonies, loue les troupes qui viennent prêter main forte à la métropole.
D'un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine.
Assistant à l'embarquement de tirailleurs à Dakar, un journaliste vante avec l'en face qui était celle de l'époque, ces hommes de nos colonies, animés du plus bel esprit de sacrifice, qui ont répondu d'un élan unanime à l'appel de la mère patrie. Ces tirailleurs ont également leur chanson, le chant réglementaire du 1er régiment de chasseurs d'Afrique.
C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdis foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier.
Tous ne meurent pas durant la bataille de France, mais beaucoup sont faits prisonniers. Ils voient la France, leur glorieuse mère patrie, défaite, humiliée, courbant l'échine devant les nazis. Dans les Frontstalags, les tirailleurs travaillent pour les Allemands ou pour des entreprises françaises soumises à l'occupant. Les conditions sont dures, la nourriture maigre, mais ils reçoivent un petit salaire. Certains sont en relation avec des marraines de guerre ou de jeunes femmes vivant près des camps qui leur font passer des colis. Des liens plus tendres se nouent parfois et des enfants naissent. Doudou Diallo, qui était à Tiaroy le 1er décembre 1944 et qui a ensuite été condamné comme meneur, a eu ainsi une fille, Maïté, née en 1943. Il a été également résistant après s'être échappé du camp de prisonniers. Ils sont nombreux d'ailleurs, les tirailleurs qui ont rejoint la résistance. Plus de 5000, mais peu reconnus. Pire même, leur courage a souvent été ignoré, voire nié par l'armée. Comme le rappelle l'historienne Armelle Mabon dans son ouvrage « Prisonniers de guerre indigènes ».
L'appartenance à la résistance et les ralliements aux différents maquis via les FFI et les FTP sont pour le moins minorés. Sous prétexte que ces hommes ne seraient pas moralement, intellectuellement et socialement capables de comprendre la grandeur, la beauté et la nécessité de ces mouvements. Au-delà de l'injure, on enterre sans gloire ceux qui sont morts pour cet idéal. Ils sont d'ailleurs encore nombreux, les courageux résistants d'outre-mer, à ne pas voir leur tombe honorée.
Lorsque les tirailleurs débarquent à Dakar à la fin de la guerre, l'armée leur doit encore la prime de démobilisation et leur arriérés de soldes. Sur ce point, les textes sont clairs. La circulaire du ministère de la Guerre, numéro 2080 du 21 octobre 1944, précise que les sommes seront versées pour un quart en métropole et les trois quarts autres au moment du débarquement. Mais l'armée rechigne à payer. Alors, est-ce que c'est parce que ces tirailleurs sont revenus de captivité avec l'argent qu'ils avaient gagné en travaillant et que les officiers jugeaient que c'était bien suffisant? Que vont-ils faire de tout cet argent au fond de leur case, hein? Lance un gradé dans le film d'Ousmane Sambène, quand Tiaroy. Est-ce que l'armée ou certains gradés comptaient détourner ces fonds à leur profit? Il n'y a pas ce jour de réponse à cette question. Les tirailleurs, bien sûr, ne l'entendent pas de cette oreille. Toujours dans le film « Camp de Tiaroy », voici les propos du sergent-chef Diatta. Il s'agit certes d'un personnage de fiction, mais ancré dans la réalité.
Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons.
Mais l'armée fait la sourde oreille. Le 27 novembre, un convoi de tirailleurs doit partir en train pour Bamako. 549 hommes originaires du Niger, du Soudan français, de la Côte d'Ivoire, doivent y prendre place. Mais ces hommes n'ont pas obtenu leur dû. Alors ils refusent de partir. Le lendemain, le général Marcel Dagnan entre en scène. Il est à la tête de la division Sénégal-Mauritanie. En l'absence du commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale française, il représente la principale autorité militaire sur place. Dagnan se rend au camp avec deux autres officiers pour faire entendre raison aux tirailleurs. Mais l'autorité du gradé n'entame pas la détermination de ces derniers et les discussions piétinent. Ce qui se passe alors, on ne sait pas exactement. Peut-être le général est-il chahuté? Peut-être les hommes excédés empêchent-ils sa voiture de partir? Dans le compte-rendu que le gradé en fera quelques jours plus tard, cela donnera. il ne fait aucun doute que nous tous, Européens, étions bel et bien des otages. Mystère. Sur RFI, en 1984, l'extérieur sénégalais Doudou Diallo, présent sur les lieux, lui est beaucoup plus clair.
Les tirailleurs ne faisaient pas de menaces, n'étaient pas incorrects. Ils étaient fermes, décidés. Mes patriotes, nous ne sommes pas des mercenaires. Nous avons demandé tout simplement ce que nos camarades français ont reçu.
Dagnan quitte finalement le camp en affirmant aux tirailleurs, c'est également dans son rapport, qu'il étudiera la possibilité de leur donner satisfaction, mais qu'il faut qu'il consulte les chefs de service et les textes. L'un des deux autres officiers présents rapporte, et je le cite encore, que le général a parlé à tout le détachement, a conseillé à tous de rester calme, rappelant que les Français ne trompent jamais les tirailleurs, que toutes les questions seront étudiées et que leurs droits seront respectés et honorés. Bien. Satisfait par les propos du général, effectivement rassurant, les Africains font même une haie d'honneur à sa voiture qui repart vers Dakar. Après tout, un très haut gradé a donné sa parole, ça compte dans l'armée. Mais pour Dagnan, une parole donnée à ces hommes peut être trahie parce qu'ils se rebellent, parce qu'ils sont noirs. Sans doute le général s'est-il senti humilié par leur résistance. Alors il veut en découdre, ainsi que le laisse entendre son rapport du 5 décembre 44, cité par l'historien Martin Moore dans l'ouvrage « Caroy 1944, histoire et mémoire d'un massacre colonial ».
Ma conviction était formelle. Tout le détachement était en état de rébellion et il était nécessaire de rétablir la discipline et l'obéissance par d'autres moyens que le discours et la persuasion.
Voilà qui ne saurait être plus clair et inquiétant pour les Africains de l'armée française. Avec l'aval de son supérieur, qui représente la plus haute autorité militaire de l'Afrique occidentale française, Dagnan met au point l'opération du 1er décembre. Il s'agit de faire une démonstration de force. Les autorités supérieures sont informées. Un télégramme est envoyé au ministère de la guerre. En voici un extrait, rédigé donc en mode télégraphique.
Les 1300 ex-prisonniers rapatriés par navire circassia font preuve esprit indiscipline revendicatif très accusé. Montre attitude arrogante à l'égard des cadres européens et prétentions inadmissibles, notamment au sujet des sommes d'argent supplémentaires à percevoir. Dirigés par meneurs, ne paraissent plus connaître limite à leurs exigences. Prenons disposition pour empêcher au besoin par la force aggravation du mouvement et rétablir autorité et prestige.
Il n'y aura pas de réponse. Le télégramme est arrivé à Paris vers 1h du matin. C'est comme si les chefs à Dakar avaient voulu mettre leur hiérarchie devant le fait accompli. Ainsi, plus de 1000 hommes sont mobilisés pour l'opération, avec des armes lourdes. 3 automitrailleuses, un char, 2 AFTRAC et des voitures de reconnaissance sont équipées de mitrailleuses, toutes tenues par des sous-officiers européens. Le 1er décembre, au petit matin, les troupes mobilisées par Dagnan encerclent le camp. Les premières unités se mettent en place dès 5h30. Les bataillons pénètrent alors dans le camp. Les AFTRAC et autres armements sont installés. Tous les tirailleurs dorment encore. À 7h15, le lieutenant-colonel Lebert, qui commande les opérations, demande à ses sous-officiers de réunir les Africains sur l'esplanade. Des comptes rendus ultérieurs dégradés décrivent alors une situation explosive, des tirailleurs menaçants, insultants, armés, prêts à l'attaque. Le son cloche du côté des tirailleurs est totalement différent, comme celui du caporal Albert Niacha, originaire de Côte d'Ivoire. Cet homme de 38 ans, militaire de carrière, est l'un des 34 qui seront ensuite jugés pour rébellion. Voici un extrait de son témoignage lors du procès, cité dans l'ouvrage de l'historien Martin Moore, Caroy 44.
Le 1er décembre 1944, à mon réveil, j'ai vu que le camp avait été encerclé par des tirailleurs et des Européens. J'ai bu mon café, puis un sergent indigène de la Côte d'Ivoire est venu dire d'aller nous rassembler sur l'esplanade. Je venais à peine d'arriver au rassemblement quand on a tiré en l'air. Je suis resté debout.
Un autre tirailleur qui figure aussi parmi les condamnés, le Guinéen Victor Donoule Foromo, livre le même témoignage. Il s'est levé, est allé chercher son café et revenu le boire à sa baraque. Quand un capitaine d'artillerie lui a demandé de se rendre sur l'esplanade, « J'étais au milieu du camp quand on a tiré en l'air », précise-t-il. De ces deux témoignages, il ressort une atmosphère paisible. Non, pas de cris, pas d'énervement, on a même le temps de boire son café. Pour ces hommes, le rassemblement signifie que leur situation administrative va être réglée, avance l'historien Martin Moore. Mais à 9h30, un premier coup de feu est tiré. C'est celui dont les deux témoignages font état. Le lieutenant Lebert en est l'auteur. Un coup de semonce, dit-il, pour prévenir les mutins qu'il va faire usage des armes. Les mutins ricanent, écrit Lebert. Alors je fais sonner l'ouverture du feu. Et voilà, c'est la fusillade. Elle est brève, une poignée de secondes, mais intense, 508 cartouches sont tirées. Le massacre de Tiaroy vient d'être perpétré. Pendant des années, un épais rideau de fumée va empêcher la vérité de se faire jour. Aujourd'hui, le massacre de Tiaroy.
France Inter, affaires sensibles.
Nous sommes donc le 1er décembre 1944. Des soldats français viennent d'ouvrir le feu sur d'autres soldats français. C'est un fait avéré. Mais derrière ce massacre, bien des questions demeurent, qui restent à ce jour vives et brûlantes. D'abord, combien de morts? C'est la première inconnue. Les chiffres officiels ont longtemps fait état de 35 victimes, puis récemment, on a consenti à en comptabiliser 70. Premier mystère. Quelques jours après le massacre, le général Dagnan rédige deux rapports. Le premier est conservé aux archives nationales d'outre-mer. Il fait état de 24 tués et 46 blessés, dont 11 sont décédés par la suite. Soit 35 morts, effectivement. L'autre, conservé au service historique de la défense, dit 24 tués et 46 blessés décédés par la suite, soit 70 morts. Longtemps, c'est le chiffre de 35 qui a prévalu. Lors de la visite qu'il a effectuée à Tiaroy le 1er décembre 2014, le président Hollande a avancé le chiffre de 70 tout en soulignant que des interrogations demeurent sur le nombre exact de victimes. Certains estiment en effet que le massacre pourrait avoir plus d'ampleur. L'historienne Armelle Mabon va dans ce sens, en s'appuyant sur la confusion entretenue quant au nombre de tirailleurs présents dans le camp. Résumons. Ils sont 2000 environ qui doivent embarquer à Morlaix. Et 315 d'entre eux refusent de partir car ils veulent l'intégralité de l'argent qu'on leur doit avant d'embarquer. Il serait donc un peu moins de 1700 à arriver à Tiaroy. Eh bien non, l'armée a toujours affirmé qu'ils étaient 1300, expliquant après coup que 400 tirailleurs n'avaient pas voulu remonter à bord lors de l'escale à Casablanca. Mais si tel est le cas, pourquoi l'officier qui les accompagnait sur le Circassia écrit-il qu'aucun fait n'est à signaler pendant les 24 heures passées à Casablanca ? Évidemment, sous-estimer a posteriori le nombre de tirailleurs présents à Tiaroy aurait pu permettre à l'armée de dissimuler un nombre de morts se comptant par centaines. En vérité, seules les dépouilles de ces hommes pourraient établir la vérité. Mais où sont-elles ? Encore une question sans réponse. Où il y a bien des tombes au cimetière militaire de Tiaroy, alignées comme un régiment lors de la revue des troupes. Mais c'est un décor. Elles n'abritent aucun corps, ne portent aucun nom. Comme si les morts de Tiaroy étaient des fantômes. Alors, les corps auraient-ils été ensevelis dans trois fosses communes ? Si oui, où ? En décembre 2017, le ministre des Forces armées sénégalaises, Augustin Tin, affirmait ceci. Aucune fosse commune n'a été retrouvée ni même située à ce jour. Trois ans plus tard, le député français Philippe-Michel Kleesbauer explique que les 200 tombes du cimetière militaire de Tiaroy ont été construites sur l'emplacement de trois fosses communes dans lesquelles sont inhumées les victimes des événements. En 2015, le général Paulus, dernier commandant des forces françaises du Cap-Vert stationné au Sénégal, donne lui une autre vision. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes à Tiaroy, devenues par la suite un dépôt d'ordures. Donc on ne sait pas. Et en vérité, on n'a pas très envie de savoir. Autant chez les officiels sénégalais que chez les Français. 80 ans après, pourtant, le sujet reste brûlant. Autre question sensible, y a-t-il eu préméditation de l'armée, une volonté de faire couler le sang ? Ici encore, les points de vue divergent. Officiellement, l'armée aurait été contrainte de faire feu face à la situation explosive qui régnait dans le camp. Le général André Bach, ancien responsable des archives du fort de Vincennes, s'inscrit en faux. Pour lui, il était prévu que ça en coule. Et il le disait à Benoît Colomba dans Secret d'Info sur France Inter en décembre 2015.
Il n'y a aucune provocation en face. Donc c'est bien un tir à tuer qui est donné alors qu'il n'y a aucune raison pour le faire. Fatalement, dans un cas pareil, il y a bien un ordre qui a été donné. Il y a des gens, soit on leur a donné un document, soit on les a réunis et leur a expliqué le scénario.
Et ça, ça ne figure pas dans les archives.
Bien sûr, ça n'existe pas dans les archives. Le problème que l'on a, c'est effectivement, on a un grand blanc, si on veut, dire, ou un gros un trou noir, qui est la nuit. Que s'est-il passé ? Parce qu'il a fallu que pendant toute la nuit, des ordres soient donnés. Notamment, récupérer un bataillon de nuit, ouvrir les armureries, récupérer les armes. Parce qu'en temps normal, en temps de paix, on ne balade pas les munitions comme ça. On peut penser, vu ce qui s'est passé, que l'issue prévisible pour tout le monde, pour les cadres du moins, on a dû leur expliquer que effectivement, ça risquait de se terminer par un tir directement sur des hommes désarmés.
Autre inconnu, que s'est-il exactement passé dans le camp entre 7h15, quand le lieutenant-colonel Lebert donne l'ordre de réunir les tirailleurs sur l'esplanade, et 9h30, lorsqu'il tire le coup de semonce annonciateur de la tuerie. Son rapport décrit des scènes d'émeute, des tirailleurs chauffés à blanc, une première rafale venant des mutins entendus à 8h45. Oui, l'armée dit toujours mutins, confondant volontairement mutinerie et mouvement social. Ces sous-officiers confirment tous, la situation est critique, ils se sentent menacés. Et Lebert précise, à 9h20, je sens qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a 2h30 que nous perdons la face, qu'une attaque brusque avec mitraillette, pistolet, arme blanche peut sortir des baraques. C'est sur la base de cette affirmation, les tirailleurs sont armés et sont prêts à tirer, que l'armée justifiera la répression. Légitime défense, en quelque sorte. Version pourtant de nouveau réfuté par le général Bach.
Il est manifeste à travers les documents qu'il n'y avait pas d'armes dans le dépôt, donc c'est une fable. Donc on a affaire à des gens rassemblés sur un terrain sur qui on a tiré, des gens sans défense. Donc on est bien sur un massacre, on n'est pas sur une mutinerie.
Selon la version officielle, les mutins auraient tiré entre 8h45 et 8h55. Mais l'ordre d'ouvrir le feu n'est donné qu'à 9h30. Pourquoi tant tarder à riposter ? Ici encore, le déroulé des faits tel qu'il ressort des documents officiels semble bel et bien indiquer une construction a posteriori et une construction bancale. Ce que le général Bach, toujours lui, confirmait en décembre 2015 au micro de France Inter.
La version présentée dans les archives qui sont conservées est une version qui ne tient pas la route. Il n'y avait aucune raison, si vous voulez, de tirer sur des gens qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'étaient pas armés, bien sûr. À partir du moment où l'affaire a eu lieu, immédiatement, il y a le camouflage qui est mis en place. Dans l'armée, si vous voulez, dès qu'il y a le moindre incident avec arme à feu, immédiatement, l'autorité qui est en face doit expliquer et faire remonter au ministre, si vous voulez, l'information. Donc là, manifestement, il s'est passé quelque chose, et immédiatement, avec manifestement l'aval du gouverneur, tout ça a été couvert. À partir du moment où une autorité très élevée dit « on va couvrir », ben c'est là que commencent les mensonges.
La dernière manœuvre consiste à accuser un certain nombre de tirailleurs d'être à l'origine de la mutinerie. 34 d'entre eux sont jugés. Chef d'accusation, refus d'obéissance, outrage à supérieur, complicité de refus d'obéissance et rébellion. Un procès express qui se tient sur 2 jours seulement, les 5 et 6 mars 1945. Les juges du tribunal militaire sont des officiers des bataillons qui ont participé au massacre. Tous ont été nommés par le général de Boisboissel, commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale française. Un procès qui ressemble fort à une parodie. Si l'on en croit Lamine Gay, l'avocat de la plupart des accusés, sa déclaration est citée dans le livre de Martin Moore, Tiaroy 44.
Au cours des débats, aucun des inculpés n'a été invité à faire connaître ses observations ou objections à l'égard des témoignages produits contre eux. Aucune confrontation n'a eu lieu à l'audience. Aucun témoin n'a été interpellé sur le point de savoir si c'est bien tel ou tel accusé qu'il avait entendu parler.
Les documents de l'armée pour salir ces hommes sont éloquents et terribles. On les accuse d'avoir été gangrénés par la propagande nazie. Oui, on affirme que des photos d'Hitler et de Göring ont été retrouvées dans leur paquetage, mais sans les produire au procès. On les soupçonne de tenir leur argent de cadavre qu'ils auraient dépouillé. On avance qu'ils auraient souffert, je cite, « d'un désaxement qui suit les périodes troubles et qui affecte particulièrement les natures frustes ». Et comme si ces propos ouvertement racistes et primaires ne suffisaient pas, on ajoute, toujours ignoble, que les nombreux succès féminins remportés par les Sénégalais flattent démesurément leur orgueil. Dans ce contexte, les prévenus, toujours désignés par la justice militaire comme indigènes, jamais comme tirailleurs, sont condamnés à des peines allant de 1 à 10 ans de prison. Les archives n'apportent pas d'explication quant à la différence des peines, note Martin Moore. Pour 9 d'entre eux, les plus lourdement condamnés, la peine comporte en outre la dégradation militaire. Et puis, ils sont amnistiés en 1947 par la loi du 16 août, qui passe l'éponge sur des infractions commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Amnistiés, certes, mais pas rétablis dans leurs droits. Ils sont privés de pension. Pas rétablis non plus dans leur dignité d'homme injustement traité. En France, le massacre de Tiaroy est resté caché derrière le rideau de fumée mis en place par l'armée jusqu'à la fin du XXe siècle. Dans un long article de 2018 intitulé « Cahier pour une histoire du massacre de Tiaroy », Françoise Crozet, historienne et présidente de l'Association pour l'histoire des tirailleurs sénégalais, signale qu'en 2000, il n'y a aucun livre, aucun article d'historien français sur le sujet. En Afrique de l'Ouest, en revanche, la situation est différente. Très rapidement, précise l'historien Martin Moore, l'événement Tiaroy devient un fait politique dont on devise au Sénégal, puis dans toute l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'au printemps 1947 et à la libération des tirailleurs condamnés, Tiaroy est un combat mené notamment par des hommes politiques africains présents en métropole. C'est le cas de Léopold Sédar Senghor. Dans les jours qui suivent le massacre, il compose un poème, Tiaroy, dont voici un extrait.
Non, vous n'êtes pas mort gratuit, ô mort. Ce sang n'est pas de l'eau tépide. Il arrose épais notre espoir qui fleurira au crépuscule. Il est notre soif, notre fin d'honneur. C'est grande reine absolue. Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Dormez aux morts et que ma voix vous berce. Ma voix de gourou que berce l'espoir.
Une fois devenu président du Sénégal, Senghor n'évoquera plus le massacre. C'est qu'il s'agit de ne pas fâcher Paris. Les milieux culturels, eux, ne perdent pas la mémoire. Le film « Quand le Tiaroy d'Ousmane Sembène » en 1988, primé au Festival de Venise, a beaucoup de succès à Dakar. Mais il disparaît rapidement de l'affiche. Il se murmure que l'ambassade de France est intervenue en sens. Il faudra d'ailleurs attendre 10 ans pour qu'on puisse le voir dans l'Hexagone. Aujourd'hui, grâce au travail d'historiens qui ont plongé dans la poussière des archives dispersées en de nombreux endroits, qui sont allés recueillir la parole des descendants des martyrs de Tiaroy, et particulièrement notre invité, Armel Mabon, la lumière se fait peu à peu, mais au prix de terribles controverses entre les tenants de l'histoire officielle et les autres, et avec une lenteur désespérante. Certes, des paroles fortes ont été prononcées par François Hollande, président de la République, notamment le 12 octobre 2012 à Dakar.
Par deux fois, au cours du dernier siècle, le sang africain a été versé pour la liberté du monde. Et je ne l'oublierai jamais. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Tiaroy, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. J'ai donc décidé de donner au Sénégal toutes les archives dont la France dispose sur ce drame afin qu'il puisse être exposé au musée du Mémorial.
En 2014, à l'occasion du 70e anniversaire du massacre, les présidents français et sénégalais vont ensemble se recueillir devant le cimetière militaire de Tiaroy. Le premier remet officiellement au second une copie des archives détenues par la France. Et François Hollande se veut et se fait très clair.
Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils.
Les mots sont forts, certes, mais depuis, les archives en question ne sont toujours pas exposées à Tiaroy et elles ne sont pas consultables par les historiens. Nombre d'archives restent introuvables ou sont caviardées. Rien n'a été entrepris pour exhumer les dépouilles, les familles attendent toujours que justice soit faite. Et depuis des années, deux fils de tirailleurs se battent et se débattent face à la justice française pour réhabiliter la mémoire de leurs pères respectifs. Yves Habibou, dont le père figure parmi les 34 condamnés de Tiaroy, pour lui ce furent 10 ans de prison avec dégradation militaire, et Biram Senghor, qui lui a très peu connu son père, il avait 5 ans lorsque ce dernier a été tué à Tiaroy le 1er décembre 1944. Il se souvient dans le documentaire Tiaroy 44, enquête sur un massacre.
Parce que crime de masse là,
on l'a tué avec ses camarades à Tiaroy et on les a enterrés dans le camp, dans un charnier. On nous a juste rapporté une valise et un papier avec des taches de sang. On ne pouvait rien faire pour récupérer la dépouille.
Tous deux n'ont obtenu à ce jour que des fins de non-recevoir. Dans le film Tiaroy 44, enquête sur un massacre de Marie-Thomas Pennett et François-Xavier Destor, on aperçoit les collégiens portant un t-shirt siglé au nom de leur établissement, École des Martyrs. Sur une peinture murale, un tirailleur coiffé de la fameuse chéchia rouge jette un regard empreint de tristesse sur les passants. Ailleurs, une immense fresque déploie une rangée de tirailleurs sur lesquels dégouline la peinture d'une inscription rouge sang. Tiaroy 44, une histoire inoubliable. Cet épisode dramatique est vu aussi comme l'une des premières failles dans l'empire colonial français qui seront suivies de bien d'autres événements sanglants qui ne font pas honneur à la France. Diallo Diop, homme politique sénégalais, membre du Rassemblement National Démocratique, en fait un résumé saisissant dans le documentaire Tiaroy 44, enquête sur un massacre de tirailleurs au Sénégal.
Ce petit événement dans la banlieue de Dakar est un révélateur. Ce crime est annonciateur d'une séquence qui sera quasiment annuelle. Quasiment annuelle. Tiaroy 44, Sétif Egelma 45, à 50 000 morts. Hanoï et Haïphong 46, ils vont à la reconquête de l'Indochine et ils bombardent. Madagascar 47, 100 000 morts. Dimbokro, Bingerville, Korogo, en Côte d'Ivoire, 48. Le Cameroun, dès 49, c'est parti.
Les morts de Tiaroy ne pourront reposer en paix tant que leurs dépouilles ne seront pas exhumées, tant que tous leurs noms ne seront pas connus. Aujourd'hui, nous ne pouvons en citer que quelques-uns. Ils se prénommaient Saliou, Amar, Amadou, Mao, Farah. Des hommes, des soldats, dont les familles attendent toujours qu'on reconnaisse qu'ils sont morts pour la France, et pas seulement par la France. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le massacre de Tiaroy. Notre invité Armelle Mabon, déjà plusieurs fois cité dans le récit. Bonjour.
Bonjour, merci à vous.
Je vous en prie, vous êtes historienne, vous avez été maîtresse de conférence à l'UBS. L'UBS, c'est l'Université de Bretagne Sud. Vous êtes aujourd'hui à la retraite et vous êtes aussi membre du collectif Secret Défense. Vous êtes également, et on vous reçoit escalité, à l'origine de la remise en lumière, si l'on peut dire, du massacre de Tiaroy, dont les archives ont tranquillement pris la poussière pendant des dizaines d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet, à l'exhumer? Que c'est presque ça.
Oui, enfin, c'est-à-dire que moi, je travaillais sur les prisonniers de guerre coloniaux et nord-africains.
Ah oui, donc c'est un élan naturel.
Voilà, donc en fait, c'était de suite logique, parce que c'était une sorte de guerre problématique. Mais par contre, effectivement, je ne savais pas que j'allais faire une anatomie, en fait, du mensonge d'État.
Alors, reprenons ensemble les questions que pose le récit et qui n'ont pas de réponse à ce jour, ce qui ressemble aussi à des mensonges. Hein. D'abord, le nombre de soldats présents dans le camp, c'est 1300, 1600, 1700?
Alors, il faut peut-être pas s'arrêter aux archives qu'on trouve en France pour essayer de trouver la solution. Moi, j'ai été chercher les archives du navire britannique, donc à Londres, et les archives le Circassia, et les archives diplomatiques. Et c'est là que on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une diminution du nombre de rapatriés. Donc jamais il y a eu 1300 rapatriés arrivés à Dakar, mais entre 1600 et 1700. Donc ces archives, elles n'ont pas été trafiquées. Elles n'ont pas été falsifiées. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, par exemple, tous les documents qui ont été rédigés avant le massacre, comme l'ordre du général Dagnan, c'est marqué 1300, ou la fiche visite du bateau à l'arrivée, ou l'opération de maintien de l'ordre, où on voit camp des 1000, camp des 300 pour faire 1300. Tout ça sont des archives, ce sont des documents qui ont été falsifiés, qui ont été réécrits après le massacre, et pour une raison qu'on peut deviner.
De mensonges d'État, voilà, de non-reconnaissance de ce que la France a pu faire pendant sa période coloniale, notamment.
Oui, surtout pour camoufler le nombre de victimes.
Alors justement, j'y viens, Alors, François Hollande à Dakar en 2012 parle de 35, en 2014 il évoque peut-être 70 morts. Vous, avec d'autres, vous pensez qu'il y en a bien plus. Qu'est-ce qu'on répond?
Alors, ce chiffre de 70 morts, il est sorti par ma faute, parce que quand j'avais remis une synthèse de mes travaux au président Hollande, ainsi qu'au ministre Jean-Yves Le Drian et Christiane Taubira en tant que garde des Sceaux, parce que je savais que des hommes avaient été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, j'avais effectivement parler de ces deux rapports avec deux chiffres, 35 et 70, mais on sait très bien que ce n'est ni l'un ni l'autre.
Ça s'approche de quoi alors?
Eh bien écoutez, comme ils ont fait croire que 400 personnes avaient refusé de monter sur le navire à l'escale de Casablanca, je pense qu'on est plus proche de ce chiffre de 300 à 400 morts. Et je signale que Sem Ben Ousmane, qui a fait ce film Camp de Tiaroy, qui était lui-même tirailleur sénégalais et qui a pu rencontrer des survivants, a donné le chiffre de 380 morts dans une interview qu'il a donnée à l'hebdomadaire La Vie Catholique.
Alors, si on identifiait les fosses communes, alors selon le photographe Yves Monteil, qui prépare depuis plusieurs années un livre de photos sur Tiaroy, on peut avoir aujourd'hui l'idée un peu plus précise de leur emplacement. Alors, imaginons qu'on ait une idée plus précise. Si on exhumait les corps, là, on pourrait savoir.
Absolument. C'est une façon de s'approcher de la vérité. Moi, en 2018, j'ai été voir ces dalles de béton qui sont à 200 mètres du lieu exact du massacre, où il y a maintenant l'échangeur de l'autoroute de Tiaroy. Et mais bien avant moi, il y a un historien sénégalais qui s'appelle Cheikh Fatty Faye, qui en 2006 a demandé à ce qu'on fasse des fouilles sous ces dalles de béton. Mm-hmm. Ça, il n'a jamais obtenu gain de cause. Ce terrain est redevenu sénégalais. Donc en fait, c'est le président Macky Sall qui a toute autorité pour demander l'exhumation des corps. Mais comme c'est quand même l'armée française qui a assassiné ces hommes, je dis bien assassiner ces hommes, je crois qu'elle peut quand même proposer son aide pour procéder à la fouille de ces fosses communes, sachant qu'il y a aussi effectivement, certainement, au moins une fosse commune au sein du cimetière militaire de Tiaroy.
Alors, je vous ai bien entendu, vous avez employé le mot d'assassinat. Aujourd'hui, le terme de massacre est accepté pour parler de Tiaroy, alors qu'on a longtemps parlé de répression, d'une mutinerie. Et vous parlez, vous, je crois, hein, d'un crime d'État, c'est ça ?
Oui,
mensonge d'État, crime d'État, assassinat. Oui,
absolument. C'est, de toute façon, c'est un crime d'État dans la mesure où c'est l'armée française qui a tué ces hommes. Mmh. Donc, c'est pour ça que y a aucun problème de nommer cela crime d'État. Et puis, effectivement, maintenant, on parle de massacre. Mais en 2014, quand François Hollande a fait son discours, il n'a pas été jusqu'à dire massacre, mais répression sanglante. Et répression, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de répréhensible avant, comme une mutinerie. Donc maintenant, je signale quand même que cette fameuse direction de la mémoire, du patrimoine et des archives qui au sein du ministère de la Défense à l'époque, en 2014, ils ont bien reconnu que c'est un massacre, mais dans une exposition qui a été inaugurée par François Hollande et Macky Sall en Afrique subsaharienne, donc au Sénégal, ils ont... là, il n'y a plus de massacre, c'est à nouveau la réitération du mensonge d'État. Et aujourd'hui encore, tout le monde parle de massacre, y compris au ministère des Armées.
Et on peut dire que François Hollande a ouvert une brèche ?
Il a ouvert une brèche dans la mesure où il a reconnu que ces hommes avaient été spoliés de leurs soldes. Mmh. Mais il faut savoir que, enfin, moi, c'est Jean-Yves Le Drian, à l'époque, qui m'a aidé à trouver ce mensonge d'État. Mais il le savait pas. C'est parce qu'en fait, il a demandé à ses services, puisque je le connaissais, Jean-Yves Le Drian, parce que je suis l'orientaise.
Ah oui.
Je suis l'orientaise, nos familles se connaissent. Donc, je lui ai demandé, mais aidez-moi à trouver les archives que je ne trouve pas.
Oui.
Et donc, ils ont exhumé cette circulaire du 4 décembre 1944, qui dit que ces hommes ont perçu l'intégralité de leur solde. Ça veut dire qu'ils ont couvert la spoliation et ça a été comme ça pendant presque 80 ans qu'il fallait couvrir ce mensonge d'État.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Armelle Mabon, je rappelle que vous êtes historienne. Quand je me suis penché sur cette histoire avec l'équipe d'Affaires Sensibles, avec Odile Conseil en particulier, mais dès le début, quand j'ai découvert le récit, je me suis posé la question, la première question, mais enfin, pourquoi l'armée ne voulait-elle pas payer la solde de ces tirailleurs? C'est quand même la première question, parce que c'est la question qui est à l'origine du massacre.
Parce que la France, à ce moment-là, estimait souvent que les Africains ne savaient pas se servir de l'argent. C'était pour la polygamie, pour l'alcool. D'ailleurs, on a vu exactement le même phénomène quand il y a eu la mise en place des prestations familiales, où on estimait qu'il fallait leur donner des layettes plutôt que du numéraire. Mm-hmm. Et là, comme ils sont revenus effectivement avec un petit peu d'économie, je pense qu'ils ont tout simplement estimé que ça leur suffisait amplement. Alors moi, je pense pas qu'il y a eu de détournement de fonds par les officiers. Je pense que tout cet argent, c'est-à-dire les primes de démobilisation, les soldes de captivité, c'est resté dans les caisses de l'État. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans une archive un excédent budgétaire pour la fin du quatrième trimestre de 1944 qui pourrait correspondre justement à tout ce reliquat qui n'a pas été donné donc à ces hommes après leurs 4 ans de captivité. J'arrive pas à trouver d'explication rationnelle, mais c'est possible que c'était juste parce qu'ils n'avaient pas besoin de cet argent.
Donc il y a bien un fond raciste là-dedans. qui renvoie à la période coloniale. On est bien d'accord, parlons clair.
Oui, je pense que c'est un racisme d'État.
C'est ça, oui.
Qui perdure encore un peu aujourd'hui aussi, quoi, dans le traitement qui en est fait.
Mais en tout cas, à l'époque, parce que ça paraît fou quand même, s'il y a eu 300 morts, on disait, qu'il y a eu 300 morts. Oui. Comment imaginer que des soldats comme ça tirent un beau matin, 9h30, sur d'autres soldats? 300! Ça paraît inconcevable. Enfin, c'est avéré. Hein. Oui. Bien sûr que c'est avéré. Mais humainement, c'est inconcevable. Enfin, c'est...
En fait, ce ne sont pas les tirailleurs du service d'ordre qui ont tiré. C'est bien les armes automatiques. Ce sont des automitrailleuses. Mais sur des hommes rassemblés.
Ça marche pas tout seul.
Oui, mais ils ont reçu ordre. C'est des officiers qui commandaient ces armes automatiques. Mais ils ont été aussi tués des hommes dans les baraques. C'est-à-dire que Mbappé Sangor, apparemment, a été tué dans une baraque. Et non seulement ils ont tué les hommes dans les baraques, mais j'ai eu le témoignage d'un fils de médecin qui était présent à l'hôpital principal de Dakar. Les militaires ont été achevés, les blessés, à l'hôpital. Donc quand le général Bag disait « mais 300 morts, ça me paraît énorme », il aurait fallu qu'ils aillent achever les blessés. Mais c'est ça qui s'est passé, justement. Donc c'est pour ça que... Alors, d'ailleurs, ça explique pourquoi il y a eu cette chape de plomb aussi énorme, parce que c'est vraiment un crime d'État qui a été en plus avec une stratégie diabolique pour le camoufler. Mais bon, par exemple, ce n'est pas le général de Gaulle qui a ordonné ce massacre, bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'a pas ordonné de le camoufler, puisqu'il il voulait montrer que la France était un grand empire colonial. C'était pas peut-être très opportun de montrer qu'on avait tué des anciens prisonniers de guerre.
Certes. Autre gros sujet, les suites judiciaires de tout cela. Des descendants de ces hommes tués à Tiaroy jugés comme meneurs, s'attachent à restaurer l'honneur de leur père. Mais la justice, jusqu'ici, n'a pas donné suite. On en est où aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recours qui ont été déposés. Moi-même, j'ai déposé des recours pour avoir accès à ces archives que le ministère des Armées dit qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'existent plus. Bon, je n'ai pas eu gain de cause parce que on peut pas obliger une administration à donner des documents si elle prétend que ces documents n'existent pas. Enfin, je suis toujours en cours au tribunal administratif puisque on voit bien que ces documents existent. Bon, enfin bon, c'est la justice administrative, c'est un peu compliqué parfois. Mais Biram Sangor, effectivement, lui vient de, il a toujours perdu tous ses recours, y compris le dernier au Conseil d'État, puisqu'il réclamait les soldes que son père n'avait pas perçus. Et en fait, le Conseil d'État a rejeté sa requête au prétexte de la prescription de la loi de 1831. Et son pourvoi vient d'être accepté à la CEDH, ce qui est très très important. Il y a aussi donc le procès en révision, effectivement, le fils de Antoine Habibou, ça a été rejeté en 2015. Au prétexte que, comme il y a une rébellion armée, il n'y a pas d'élément nouveau.
Ouais.
Alors, je tiens à signaler que l'élément nouveau, il peut arriver très vite maintenant, parce que ce n'est pas mes travaux d'historienne qui peuvent servir d'élément nouveau pour un procès en révision. Mais, en avril 2023, j'étais reçue à nouveau au ministère des Armées, et ils ont annoncé que les victimes allaient être reconnues mortes pour la France.
Ce qui est un grand pas.
C'est énorme.
Bien sûr. Alors, toute dernière chose.
Oui, mais ça n'a pas été officialisé.
D'accord.
Biram Sangor n'a jamais reçu et donc il faut officialiser pour que le procès en révision puisse aboutir.
En quelques secondes, il y a peut-être un espoir du côté, j'allais dire, culturel. Depuis quelques années, on a intégré l'idée de repentance. Ça peut aider, ça. Il y a 30 ou 40 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile, ou même 20 ans. Non, mais ça n'aide pas.
Surtout pas de repentance, c'est juste toutes ces familles. Et moi, j'ai une pensée particulière pour Mbappé Sangor, qui a été considéré comme non rentré, c'est-à-dire qu'il est disparu. C'est comme ça qu'on a pu faire. Il faut penser à ces hommes et aux familles qui se battent depuis des années pour que la justice passe.
Bien. Merci infiniment, Armel Mamon.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci pour ce beau récit.
Je vous en prie. Merci infiniment. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le massacre de Tiaroy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Vuillier.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.